Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Nous sommes en guerre.
Il peut arriver que la science rejoigne le bon sens.
Nous sommes en guerre.
Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères.
Nous sommes en guerre.
Parce que lui est revenu sur moi. Il commence à me tabasser. J'ai dit au secours. Après, donc moi je suis retrouvé couvert de sang.
Nous sommes quelquefois troublés que ce que nous prêchons, c'est un Dieu d'amour, puisse entraîner autant de colère.
Oui, hein, Dieu d'amour puisse entraîner autant de colère. Hein. Au nom des identités, au nom des communautés, au nom du fait qu'on a oublié de faire nation. On a oublié que d'abord, avant d'être ceci ou cela, de la couleur de ceci, de la couleur de cela, du dieu de ceci, du dieu cela, on était une nation. Apparemment, non. C'est devenu le dernier des soucis, à la fois des princes qui nous gouvernaient, d'un certain nombre de gens pour qui, bon, la France, quoi. Allez, c'est une maison de passe, c'est open bar, c'est open air, c'est la passoire, je ne sais pas. C'est quoi ? Et ce qui s'est passé à Cergy est tellement significatif de ce qui est en train de se passer partout. On va prendre le temps d'en parler. On va aussi parler des éoliennes. Et oui, les éoliennes qui sont censées résoudre tous nos problèmes d'électricité. Évidemment, beaucoup mieux que ce nucléaire qui, évidemment, ne fait pas une once de CO2. Mais enfin, le nucléaire, c'est terrible. Alors que les éoliennes... Oui, mais quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait avec les éoliennes ? On va également en parler. Et puis, on va parler des antifas, des catholiques, on va parler du rappeur chaotique 747 et de l'hebdomadaire L'Obs, on va parler de tout ça et on va recevoir Serge Federbouch qui a été longtemps à la mairie de Paris, qui est politologue et qui a écrit un Covid Story, une étrange défaite, un livre très qui vient tout à fait à son heure. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Auditeurs de Sud Radio, bonjour, j'espère que vous gardez le moral, hein. Plus que jamais, vous avez question à tout. Résistance. Or donc, l'histoire que je m'en vais vous conter, c'était dimanche soir. C'était un groupe de jeunes qui souhaitaient dîner dans un restaurant de la ville, le Brasco, à Cergy, dans la ville de Cergy, dans le Val d'Oise. Il est aux alentours de 22h30, évidemment, couvre-feu, comme vous le savez, à 21h. Alors, les gérants expliquent qu'il ne peut pas les servir, qu'il prépare la fermeture sur l'établissement. Et l'un des clients déçus s'en prend alors à un livreur noir d'une plateforme de restauration qui attendait une commande devant le restaurant. Et voici ce que le livreur, après s'être fait copieusement tabasser et qu'une femme à la fenêtre filmait la scène, voici ce qu'on entend.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Espèce de négresse, espèce de sale noire, personne te touche même avec un bâton. Espèce de salope. Voilà, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères.
Alors, c'est extrêmement raciste, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement, effectivement, insultant et plus que ça. C'est le racisme dans sa plus belle acception. Et je vais vous dire, pourquoi on le passe ? Parce que le racisme est la chose, et là, c'est la tare la mieux partagée. Alors, pour le moment, on ne s'en prenait, effectivement, à les seuls racistes, comme vous le savez, pour les woke, les indigénistes, la cancel culture, les décolonisés, il n'y a que le blanc. Hein. Le blanc, il est raciste. Eh ben non, malheureusement, ou heureusement, ou en tout cas, cette espèce de tare, cette espèce de plaie qu'est le racisme, eh ben, elle est l'apanage de tous et de toutes. Dans toutes les communautés, il y a des tarés dans toutes les communautés. Et c'est cette espèce de deux poids, deux mesures qui a contribué de la part des âmes et des angéliques et des bobos du camp du bien a effectivement stigmatisé les choses et surtout les exacerber. Et voyez qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, on voit ces jeunes, on l'a vu, ça a circulé sur tous les réseaux sociaux, ils sont en train d'être filmés, ils s'éloignent. La voisine, donc, l'incite, on va pas vous donner tous les trucs, la voisine a incité à montrer son visage et je voudrais encore vous faire entendre la suite un tout petit peu. Écoutez.
Espèce de négresse, espèce de noir, personne te touche même avec un bâton, espèce de salope. Voilà, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, va. Tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères.
Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez?
Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Fine. C'est le SGA, c'est pour ça la niçoise ta mère.
Allez. Et c'était la voisine d'en haut qui se fait également insulter, évidemment, de la même façon. Et le livreur, effectivement, s'est fait copieusement tabasser. Le livreur qui devait, voilà, d'une plateforme de restauration, s'est fait tabasser. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Évidemment, tous les jours, aujourd'hui, apportent leur lot. Et je voudrais justement demander à quelqu'un qui a été un acteur, qui connaît un acteur de la scène, qui a été sur le terrain plus que beaucoup d'autres, François Pupponi, qui est l'ancien maire de Sarcelles et qui est député du Val d'Oise, justement. Ça s'est passé à Cergy. Bonjour François Pupponi.
Bonjour.
Vous êtes auteur des Émirats de la République et récemment, que je recommande évidemment, et l'autre que vous venez de faire paraître, Lettre à mes compatriotes musulmans, et aux éditions du CERF. François Pupponi, on se dit toujours, au fond, alors je ne vous parle pas des réactions, je lirai plus tard, je vous dirai le communiqué de la Ligue de Défense des Noirs, la LICRA, etc., toutes les réactions qu'il y a eu, les gens qui se sont retrouvés devant le Brasco, le restaurant, qui est fermé pour une semaine. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vraiment l'explosion communautaire, c'est tous contre tous, c'est communauté contre communauté, et c'est la force centrifuge?
Bien sûr, dès lors qu'on ne forme plus nation, dès lors qu'on ne crée plus la nation, dès lors que la République n'a pas été capable de s'imposer, c'est chacun pour soi. Et ce racisme, envers les hommes, moi j'ai connu beaucoup de Maghrébins qui appellent les gens de couleur, comment on peut dire, voilà, parce qu'on a même du mal à trouver les mots, les carlouches. Dans les quartiers, les blacks, c'est les carlouches. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai essayé de me faire traduire un jour. Enfin, bien sûr qu'il y a du racisme entre communautés, bien sûr qu'il y a des tensions entre les communautés. Moi, vous savez, quand j'embauchais des jeunes dans les quartiers, il y a un jour, quelqu'un est venu me voir en disant « maintenant, c'est notre tour ». Mais je dis « mais le tour de qui ?» J'avais embauché 4 jeunes dans un quartier pour une zone quartier. Ouais. Il me dit « vous avez pris que des blacks ». Non, j'ai pris des jeunes du quartier. Oui, mais avec des blacks, donc maintenant, c'est le tour des maghrébins. C'est aussi comme ça que ça se passe. Ouais, il y a bien entendu des tensions intercommunautaires et c'est chaque communauté contre chaque communauté. Alors, il ne faut pas généraliser, bien entendu, mais ces phénomènes existent.
Mais alors, ces phénomènes existent depuis longtemps, François Pupponi? Avec le recul.
Moi, ça fait 20-30 ans que ça existe, oui, bien sûr qu'il y a des tensions entre communautés et que chacun essaie de revendiquer pour sa propre communauté, où l'individu qui, lui, veut quelque chose, il essaie de dire « ma communauté étant plus discriminée que l'autre, eh ben, c'est à mon tour d'avoir quelque chose ». Voilà, donc on se sert de sa propre communauté pour essayer, attention, pour essayer de trouver un intérêt personnel. Hein, parce que ceux qui revendiquent, ils revendiquent pour eux, c'est tout. Une fois qu'ils sont en place, ils oublient tout le monde.
Oui,
mais effectivement, ils se positionnent sur leur communauté en disant, vous savez, une fois, je vais me donner un autre exemple.
Tout à fait.
Lorsque j'étais conseiller départemental et en même temps député maire, j'étais touché par le cumul des mandats. Et donc, j'ai abandonné mon mandat de conseiller général de l'époque. Et c'est un jeune du Parti Socialiste qui s'appelle Yuri Mazou qui devait me succéder. On l'a présenté, on est du Parti Socialiste. Il est d'origine africaine. Et le cran, mais il y avait une militante socialiste qui, elle, était handicapée, qui revendiquait aussi la place. Et le cran m'a demandé rendez-vous pour me dire…
Le cran, c'est le conseil des associations.
Le conseil des associations noires. C'est ça. Représentatives des associations noires. M'a demandé rendez-vous pour me dire « Non, il serait bien que ce soit plutôt l'handicapé. » Mais je dis « Mais attendez, mais dans quel monde on vit ?» Là, je laisse la place. Le Parti Socialiste propose un jeune issu de la diversité, de la communauté africaine, et vous expliquez que c'est pas son tour parce que ça serait le tour des handicapés. Voilà. Quand on en arrive à une telle absurdité que chaque minorité essaie de prendre la place de l'autre, alors c'est parfois sur des bases communautaires, parfois sur des bases en fonction des motifs de discrimination, ouais, et on arrive à où chacun pour soi, oui, c'est une réalité.
Oui, ça peut être sexuel, ethnique, genre, etc.
Tous les numéros, bien sûr.
Et dites-moi, qu'est-ce qui a fait, vous en avez parlé dans vos livres d'ailleurs, et vous en avez très bien parlé, mais qu'est-ce qui fait et comment qu'on est arrivé à ce stade qu'on n'arrive plus à faire nation ? Alors on le sait, on le dit tout le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé, cette espèce de effondrement de termitière, vous l'analysez comment ?
Alors, on a juste oublié en France que la République et la nation, ça ne va pas de soi. Ce sont des concepts que nous avons, nous, Français, portés au plus haut niveau.
Oui.
La République, le pays des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Et on a cru que, bah, parce qu'on a été le premier, qu'on est le pays des droits de l'homme connu dans le monde, ça allait tout le temps continuer. Et que tout le monde allait arriver, et que chacun allait se sentir bien français, très heureux, très fier d'être français. On a juste oublié que, comme la République et la nation ne vont pas de soi, il faut les construire quotidiennement. Mais aujourd'hui, qui construit la nation ? Qui fait nation ? Qui explique aux Français, quel qu'il soit, l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'amour du drapeau ? Il n'y a plus personne. Alors, l'école éduque, et oui, plutôt bien, mais après…
Mais à l'école, il n'y a plus d'instruction civique, il n'y a plus ce roman national.
Absolument. Absolument. Ce qui me trouble souvent quand je vais à l'étranger… Ouais. C'est que partout, quand vous allez souvent à l'étranger, il y a les drapeaux du pays qui sont affichés aux fenêtres.
Exact.
Nous, ça ne se fait plus. Voilà. Et donc, comme on n'a plus construit la nation, on a cru que ça allait être de soi alors que ça ne va pas de soi, eh bien, on est dans un pays où les gens, une partie des habitants ne reconnaissent plus leur pays. Ce que je constate, moi, c'est que les populations qui arrivent maintenant, qu'elles soient, par exemple, la communauté pakistanaise ou autre, ou par exemple, à Sarcelles, on a une forte communauté chaldéenne qui arrive de Turquie, ouais, eux, ils ont le sentiment que la France les a accueillis. Ils sont reconnaissants, la France. La difficulté vient souvent des populations qui sont issues des pays post-coloniaux, ouais, avec lesquels nous n'avons pas été capables de construire, pour certains, de construire l'amour du pays.
Est-ce que vous avez l'impression, François Popuni, quand même, avec le recul de 20 ou 25 ans, que là, les tensions s'exacerbent, ou ça a toujours existé et c'est toujours au même niveau ? Parce que l'impression qu'on a, mais encore une fois, parce qu'on regarde, on lit, etc., mais est-ce qu'en fait, quand même, il y a quelque chose qui se passe d'un espèce de déchirement du tissu, parce que personne ne parle plus du collectif. C'est ça qui est assez terrible.
Bien sûr que ça s'exacerbe, parce qu'aujourd'hui, certains ont conceptualisé la fracture. Je prends les indigénistes, qui ont maintenant parole ouverte dans les médias, où on prend le comité Adama. Qu'est-ce que ces personnes disent ? La France nous a colonisés, la France nous a exploités, la France nous a dominés, elle nous est donc redevable. Et ensuite, il y a d'autres minorités qui disent « mais nous, on n'est pas respectés dans ce pays, nous, on est discriminés ». Et donc, comme on a laissé la parole à des gens, parfois pour des raisons que l'on peut entendre, mais que ces gens-là ont la parole, et la mise en cause systématique de la France et de son histoire fait qu'aujourd'hui, il est compliqué de construire. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les Antillais sur les descendants d'esclaves. Quand on travaille avec des communautés, on arrive à créer nation et à faire les choses ensemble. Mais à partir du moment où le pays ne répond plus, où on n'est pas capable de valoriser notre histoire, on n'est pas capable d'assumer notre histoire, on a laissé la parole à des gens qui ont détruit ce qu'était notre concept républicain et national. Et à partir du moment où ces gens-là ont pris de la place et qu'ils ont conceptualisé ce discours, on a mis dans la tête d'un certain nombre de jeunes qui se cherchaient les raisons de leur propre échec. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est compliqué. Dès lors qu'il n'y a pas un discours national et républicain qui est capable de contrecarrer ce discours de destruction, oui, la destruction est en marche.
Et on l'attend, ce discours national et républicain, vous avez tout à fait raison, on a laissé conceptualiser et on a laissé faire la concurrence victimaire, et ça, c'est en train, il faut le dire, de nous détruire à petit feu et à bas bruit, et pas tellement bas bruit. Merci François Pupponi.
Je rappelle, François Pupponi, votre livre « Lettres à mes compatriotes musulmans » aux éditions du CERF. Vous avez entendu ce qu'a dit François Pupponi. La guerre des communautés contre communautés existe bien depuis même 20 ans. Il nous a donné des exemples concrets. Et voilà, la République, la nation ne vont pas de soi. Il faut défendre cette unité nationale. Et bien, vous aussi, venez justement défendre votre vision de l'unité nationale au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et vous aimez le bruit des éoliennes le soir au fond des océans ou à la surface de l'eau? Vous aimez ces espèces de gigantesques pales qui marchent par intermittence, On les appelle les intermittents du spectacle naturel. Ah bon? Et oui, et pourtant, on veut absolument nous les fourguer partout et en toutes circonstances. Pourquoi ? Eh bien, il y en a qui sonnent l'alarme. On en parle.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort.
Eh oui, trop vite et trop fort. Alors, c'est quoi ces moulins, hein, ces moulins à vent? Eh bien, écoutez, on en a parlé déjà beaucoup et on a toujours plaisir à le recevoir avec Fabien Bouglet. Fabien Bouglet, porte-parole du réseau Ulysse, réseau national anti-éolien, ancien vice-président de la Fédération Environnement Durable et auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. On vous avait déjà reçu avec plaisir et on vous reçoit aujourd'hui, Fabien Bouglet. Et en fait, l'actualité a été relancée par Stéphane Bern. Hein, mais Stéphane Bern, vous connaissez évidemment Monsieur Patrimoine. Et Stéphane Bern, eh bien, il a pris Sarah Pierre et il a écrit une tribune dans le Figaro Vox. Madame Pompili, titre de l'article de Stéphane Bern, les éoliennes sont une négation de l'écologie. Et voilà, et il en parle, c'est un article que je vous recommande sur le site net du Figaro. Et il raconte un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on a raconté avec Fabien Bouglet aussi sur les éoliennes, rappeler un peu non seulement ce qu'ils peuvent faire sur l'environnement, mais en fait, surtout, encore une fois, c'est l'intermittence. Parce que quand il n'y a pas de vent, on fait comment avec les éoliennes pour avoir de l'électricité? Alors c'est très bien de vouloir supprimer le nucléaire, mais le remplacer par quoi? Par le gaz? Par le charbon? Par comment on fait l'Allemagne? Et ils reviennent là-dessus. Alors, Fabien Bouglet, au fond, où on en est où aujourd'hui?
Écoutez, André Verkov, merci de me recevoir. On est effectivement à un moment clé de la lutte anti-éolienne parce que la tribune de Stéphane Bern, que l'on ne peut pas taxer d'être un méchant réactionnaire...
Hein, non, c'est ni quand un même... anti-écologiste primaire.
Voilà, parce que l'autre jour, Barbara Pompili a résumé quand ils n'ont plus d'arguments, il dit c'est les gens d'extrême droite. Oui. Bon, en fait... Dans la lutte anti-éolienne, il y a des gens de tout courant politique confondu, et je crois que l'intervention de Stéphane Bern, qui est plutôt proche de Macron, le prouve. Il y a des élus macronistes qui sont contre les éoliennes, il y a des élus de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Il y a même Lutte Ouvrière, là, récemment, qui, à Saint-Brieuc, a fait un communiqué de presse. Donc, il faut arrêter, Madame Pompili, de raconter n'importe quoi. Et je crois que Stéphane Bern a voulu lancer l'alerte. Et moi, je remercie Stéphane Bern de cet acte fort qu'il a lancé pour rappeler à Madame Pompili qu'il fallait arrêter de raconter des carabistouilles et des mensonges permanents. Et la première fake news de Madame Pompili, c'est quand même la question de la décarbonation par les éoliennes. Puisque la France, on va le rappeler, au titre de son électricité, est à 80% décarbonée. Absolument. Si on supprime...
Et puis la France, il faut le rappeler aussi, n'émet que 0,9% de CO2.
Tout à fait.
C'est le maillot jaune de toute l'Europe en matière de décarbonation.
On est le pays un des plus vertueux au monde. On n'a aucune leçon à recevoir de l'Allemagne. On est vert dans les cartes d'Electricity Map, là où l'Allemagne, avec son charbon et ses éoliennes couplées, son marron, c'est une électricité sale. Et Madame Pompili voudrait que nous prenions comme exemple l'Allemagne qui a un échec retentissant pour sa transition énergétique. Il faut arrêter. Et donc la France, en vertu de l'intermittence des éoliennes, eh bien, fait que si on remplace une électricité décarbonée par une électricité intermittente, eh bien, on doit utiliser en ce qu'on appelle le backup, c'est-à-dire des centrales au gaz, au pétrole ou au charbon. Et j'en veux pour preuve, c'est que hier, monsieur le patron de Total était invité d'Europe 1, et il a dit, mais nous, on se frotte les mains, je résume, hein, on se frotte les mains parce que les éoliennes sont intermittentes et ça nous permet de vendre du gaz. Donc lui-même le dit, vous voyez, même le patron de Total sur Europa avoue le mensonge qui est en fait le fait que plus on installe d'éoliennes, plus on contribue à réchauffer le climat et à contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Non, je crois que là, on est vraiment dans une imposture. Madame Pompili, arrêtez de raconter des mensonges. Et je crois que la tribune de Stéphane Bern est absolument salutaire et elle fait un buzz absolument incroyable dans tous les milieux. J'ai vu des tweets de l'Association des architectes des bâtiments de France. J'ai vu même des macronistes la rediffuser. Mmh. Je crois maintenant qu'il y a un tsunami anti-éolien.
Alors, vous sentez quand même un revirement de l'opinion à ce sujet?
Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que il y a eu plusieurs ouvrages. Il y a eu le mien, mais il y en a eu d'autres avant, celui de Denis de Kergorlay notamment. Je crois que depuis des années, les anti-éoliens qui étaient un peu seuls sont aujourd'hui suivis. Pas simplement suivis, on va dire, par quelques châtelains, comme s'amusent à dire les promoteurs éoliens, mais suivis par l'ensemble de la population française, parce qu'aujourd'hui, cette crise écologique de la pollution éolienne, elle rassemble les marins et certains députés de toutes tendances confondues, elle rassemble les gilets jaunes et les châtelains, et elle rassemble tout le corps
électoral. Et les amoureux de la montagne Sainte-Victoire, Tempête par Cézanne, et de l'environnement, parce que, excusez-moi, la beauté, ça a aussi une vertu curative.
Et elle rassemble les amoureux du patrimoine naturel et paysager et patrimonial, architectural. Là, récemment, on a vu, ça a buzzé sur Twitter, des images absolument épouvantables d'un rapace qui a été déchiqueté.
La Jipaète.
Exactement. Et alors là, la LPO, qui a été partenaire des promoteurs éoliens, on s'en abuse beaucoup, va falloir que vous choisissiez, monsieur Bougrain-Dubourg. Soit vous êtes anti-éolien, soit vous êtes NIMBY, mais vous choisissez votre camp. Alors venez rejoindre le camp des anti-éoliens pour une bonne fois pour toutes, et faites une tribune contre Stéphane Bern, contre la mortalité des éoliennes. Mais ne nous dites pas, il faut adapter les éoliennes et mettre des radars. J'ai entendu ça de la part d'amoureux des oiseaux dire, on va faire des radars des éoliennes
pour empêcher les oiseaux
de passer. Voilà, non, faut pas être absurde. Mais en tout cas, je le dis solennellement, j'invite tous les amoureux des oiseaux, et ils sont nombreux, et dans la France, moi j'ai des contacts avec certains, qui sont scandalisés que la Ligue de protection des oiseaux au niveau national soit partenaire des promoteurs éoliens au travers de France Énergie Éolienne et du syndicat des énergies renouvelables. Donc on est au cœur de cette problématique et du rassemblement aujourd'hui citoyen. C'est peut-être depuis de très nombreuses années, peut-être un élément catalyseur de la population sur l'enjeu de l'écologie par la préservation de notre patrimoine particulier.
Alors Fabien Bouglet, justement, pour terminer, mais vous préparez, je crois, un événement le 12 juin.
Oui, j'entends ça et là, beaucoup de personnes en France qui souhaitent l'organisation d'un rassemblement devant les préfectures du milieu rural ou maritime. Mm-hmm. Donc, peut-être avec le collectif qui s'est monté des maires de France contre l'éolien, nous envisageons, c'est à l'état de projet, mais j'invite tous les collectifs français, les associations, les marins, toutes les associations qui sont liées à la défense du patrimoine, à envisager de se rassembler, pas ce samedi-là, mais le samedi d'après, devant principalement les préfectures, pour dire à Madame Pompili que ça suffit. Donc effectivement, si les Français veulent s'exprimer devant leur préfet, puisque vous savez que Madame Pompili vient de demander au préfet, puisqu'elle s'en lave les mains, de faire une cartographie des nouveaux lieux d'installation d'éoliennes pour augmenter et accélérer cette transition écologique.
Vous voulez dire que Madame Pompili est une Pompili pyromanie?
Exactement, tout à fait. C'est plus la ministre de l'écologie, c'est la ministre des éoliennes. Voilà. La chef, on va la rebaptiser la chef de l'éolien.
Écoutez, en tout cas, sur podcast, vous allez pouvoir écouter ça sur Sud Radio en podcast et sur notre site sudradio.fr, l'émission L'appel de Fabien Bouglet. Et ben on va suivre tout ça.
Voilà, et je demande juste aux partis politiques, de grâce, le 12 juin, venez à nos rassemblements, mais c'est pas un moment électoral, c'est vraiment un moment citoyen. Absolument. Où on demande d'absence de récupération. Ils sont tous bienvenus, mais pas de récupération politique. Merci beaucoup.
On vous a entendu, merci.
Et dès ce soir d'ailleurs, vous pouvez consulter aussi ce documentaire sur YouTube, Éolienne, du rêve aux réalités, un film de Charles Timon dans lequel vous apparaissez aussi, Fabien.
Oui, tout à fait, ce documentaire absolument incroyable dans lequel Monsieur Proglio, l'ancien patron d'EDF, Hervé Macheneau, ancien directeur exécutif d'EDF, expose que 40 milliards d'euros par tous les ans en Allemagne, avec le déficit commercial considérable, soit entre des subventions...
40 milliards d'euros.
40 milliards d'euros.
Il se voit ce documentaire, rappelez le titre.
Alors, c'est du rêve à la réalité, soit sur YouTube, rêve à la réalité éolienne, ou documentaire et vérité, le site documentaire et vérité, et vous pouvez évidemment le diffuser à tous vos amis, parce que c'est un documentaire qui expose de manière, avec des personnalités de premier plan, des ingénieurs, des polytechniciens, des gens du CNRS, toute la problématique que nous exposons ici, mais de manière un peu plus détaillée. Voilà. Nous sommes en train de gagner, André Bercoff. Merci infiniment de votre participation et de soutien à cette cause qui nous est chère.
Voilà. Et vous voyez, les moulins à vent, nous, on aime, mais peut-être que ces moulins à vent contiennent des matériaux qui peut-être ne sont pas les plus purs. Merci.
En
merci
tout cas, André vous réagissez tous 0826-300-300 au sujet des éoliennes. Est-ce que vous en avez à côté de chez vous? Est-ce que vous luttez contre les éoliennes ou est-ce que vous trouvez ça très bien? On vous attend à ce sujet.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, les perles du jour.
Je te donne l'hémisphère nord, j'ai froid. Je prends l'hémisphère sud. Prends de temps, trois mouvements. Je te donne le fil à retordre. Je prends l'aile et la porte.
C'est la mystérieuse Madame K. La mystérieuse Madame K, une chanteuse, elle chante aisément. Voilà, hémisphère, hémisphère. Et alors, vous savez que la cancel culture, hein, le politiquement correct, tout ça, ça avance. Cette espèce de métastase cancérigène de nos consciences. Et voyez, aujourd'hui, par exemple, Lara Hogan, ça se passe, elle avait écrit un livre, en disant que, écoutez, il ne faut plus nommer les saisons hiver, automne, été, printemps. Non, printemps, été. Automne, hiver, c'est terminé. Ah bon? Et vous voulez nommer comment? Chère Lara Hogan, elle est à Wherewithal, Best Resilient Management, le management résilient. Eh bien, elle dit, il faut les appeler Q1, Q2, Q3, Q4. Quelle poésie, hein? C'est quand même tellement mieux que, effectivement, été, automne, hiver, printemps, c'est tellement mieux, bien sûr. Et pourquoi? Alors, pourquoi vous ne voulez plus que du cul? Pourquoi vous voulez plus du cul, chère Lara Hogan, et vous voulez plus les saisons? Eh ben, c'est très simple. C'est parce qu'il ne faut plus dire l'été dans l'hémisphère nord pour ne pas discriminer. Écoutez-moi, mes auditeurs du Sud Radio, je vous jure que je n'invente rien. Il ne faut plus dire l'été dans l'hémisphère nord pour ne pas discriminer l'hémisphère sud où c'est l'hiver au même moment. Oui, parce que quand vous êtes en été dans l'hémisphère nord, eh bien c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, eh bien vous êtes raciste. Oui, vous êtes raciste envers l'hémisphère sud puisqu'il pleut. Alors voilà, il faut donc dire Q3 et nommer les saisons ainsi. Voilà, ça s'appelle le progressisme. Vous voyez qu'on avance, vous voyez? Eh bien, dorénavant, on dira Q1, Q2, Q3, Q4, et eux, on va les appeler, eh bien, les dîners de cul. Je sais que ça va les occuper longuement.
Et vous, alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le cul? Eh bien, on vous attend, hein, 0826-300-300.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Oui, non, c'est pas la commune de Paris il y a 150 ans. Non, c'est pas du tout ça, vous savez. Il n'y avait pas encore, hélas, d'enregistrement à l'époque. Eh bien, non, ça s'est passé là, samedi dernier. 300 pèlerins parisiens, curés, femmes et enfants, personnes âgées, catholiques, eh bien, ils faisaient une marche de prière organisée par le diocèse de Paris en mémoire des martyrs catholiques de la commune de Paris. Eh bien, ils ont été agressés physiquement, insulté, traité de tous les noms et tabassé par une contre-manifestation d'extrême gauche, les Antifa, qui se proclamaient Antifa. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est les Black Blocs, la mouvance libertaire, etc. Et en fait, ils étaient là et ils se sont carrément pris à des curés, des femmes et des enfants. Alors, écoutez, moi, la Commune de Paris, c'est un grand moment et vive la Commune de Paris. Mais que 150 ans après, on s'en prenne à une manifestation pacifique de 300 personnes qui étaient là pour prier, quel que soit ce qu'on peut penser, quel courage, mais alors quelle résistance, mais alors vraiment, alors c'est beau ça, hein. Ça c'est ce que j'appelle les gens moulins à vent, et c'est des gens qui, petite résistance de rien du tout. Et il y a eu des gens qui ont été évacués la tête en sang, des drapeaux tricolores et des bannières de paras sont arrachés. Évidemment, drapeau tricolore, un drapeau français, dégueulasse, etc. Oui, ce sont des catholiques intégristes et royalistes, mais quand il y a des manifestations autres, effectivement, que ce soit d'une autre communauté et autres, alors là, c'est très, très, très bien. Là, c'est les résistants. Mais là, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Mais où on est là? Où on est pour que cette exacerbation de la violence à sens unique, bien sûr. Parce que ceux-là, on va pas les toucher. Génération identitaire, c'est pas pour les défendre. Moi, je suis pour qu'on ne dissolve personne. Mais alors, génération identitaire ont été dissous. Alors que ceux-là, qui tabassent des curés, des femmes et des enfants, qui manifestent pacifiquement, eh ben, on leur fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire, alors que t'es pas de poids de mesure? D'ailleurs, Monseigneur Petit, l'archevêque de Paris, célébrait une messe ce dimanche à Notre-Dame des Otages en mémoire des Martines de la rue Axo. Et il est revenu ceci. Et il a dit, voilà ce qu'il a dit, Monseigneur Petit.
Nous sommes quelquefois troublés que ce que nous prêchons, c'est un Dieu d'amour, puisse entraîner autant de colère, autant de haine. Et ici, le soir, il y a une manifestation de colère, de mépris et de violence. Le Seigneur nous avait promis qu'il y aurait de la violence. Non pas parce que nous sommes nous-mêmes des êtres violents, mais en nous rappelant justement ce qu'ont vécu nos frères ici, les otages en question, qui, d'après les rapports que nous avons pu lire, n'ont jamais manifesté de colère face à la colère, de haine face à la haine.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est vous n'aurez pas ma haine ou pas, Monseigneur Petit, mais le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas comme ça à une manifestation pacifique. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à être antifasciste en faisant des actes fascistes. Il faut savoir dans quel camp on est. Et le camp de la violence gratuite est un camp fasciste par essence.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est
à ça,
con.
Je dois dire que je suis vraiment, et j'étais très étonné, l'Obs, que nous avons connu, le Nouvel Obs, qui était un formidable journal. L'Obs, eh bien, de temps en temps, se livre à des dérapages qui sont quand même assez hallucinants, s'il n'était pas aussi pathétiquement stupide. Alors, Chaotique 747, vous savez, le rappeur, on en a beaucoup parlé de Chaotique 747, qui a fait un hymne, c'est pas l'hymne qui a été retenu pour Euro 2021, pour l'équipe de football de française, mais enfin, il était là. Alors, c'est Karim Bouchagour, hein, Chaotique 747. Eh bien, comme il est un ardent défenseur de, voilà, des forces de l'ordre, et oui, un rappeur défenseur de des forces de l'ordre, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est, ça veut dire quoi? C'est un athée qui croit en Dieu? Non, non. Non, c'est absolument impossible. Donc, il est évidemment fasciste. Et alors, qu'est-ce qu'ils mettent à l'Obs? Qui est Chaotique 747? Le rapport Propolis Chouchou de la droite, c'est l'Obs hein, qui écrit ça. Et il a fait un geste, vous savez, avec un rond avec ses doigts. Et que dit le nouvel Obs? Il dit, ah ben ça c'est le OKKK, c'est la référence au Ku Klux Klan. La référence au Ku Klux Klan, c'est-à-dire que le rapport Chaotique 747 serait effectivement sympathisant du Ku Klux Klan. Eh bien, Chaotique 747 a réagi avec un bon sens hein, très simple, qu'il faut rappeler à tous nos bons gauchos-bobos. Eh bien, que dit Chaotique 747? Que dit Karim Bouchagour? Ce signe est extrêmement courant dans le monde de la plongée sous-marine pour dire que tout va bien. Depuis toujours, je m'efforce de rassembler au-delà des religions et des orientations politiques dans un esprit républicain. Et le rapport va porter plainte contre l'Obs. Franchement, à des moments, franchement, il faut arrêter. Vous savez, la bêtise est toujours infinie. Alors, si on veut gagner, il faut se lever tôt. Mais alors là, ça atteint le gaz de schiste. C'est intéressant.
Et voilà, ça c'est chaos, justement. Et tout de suite, André Berkov, dans quelques instants, on se retrouve avec Serge Federbouch, auteur de L'Enfumeur. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Serge Federbouch, qui est magistrat, homme politique, essayiste et auteur de ce livre, Covid Story, une étrange défaite chez VA Éditions.
Alors, Covid Story, effectivement, Serge Federbouch, on l'a déjà reçu et on est toujours content de le recevoir.
Eh bien, c'est un plaisir partagé.
Je rappelle, Serge, que vous êtes haut fonctionnaire et énarque, mais c'est pas un énarque comme les autres, vous allez voir. Il est fondateur du Parti des Libertés, de l'association Aimé Paris. Je rappelle que Il a été tête de liste aux élections municipales parisiennes de 2020 et il a été d'ailleurs au conseil municipal de Paris pendant longtemps.
Dans le 10e arrondissement.
Dans le 10e arrondissement, exactement. Mais là, il ne s'agit pas de Paris, il s'agit de Covid Story. Alors, Covid Story, je ne vais, pas vous faire un dessin, vous le savez. Et ce qui est intéressant, Serge Villerbeau, c'est qu'en fait, vous avez fait une espèce de synthèse de tout ce que nous avons vécu depuis un an et demi, maintenant, on peut le dire, un an et demi, et que vous, effectivement, en prenant un peu de distance, et c'est pas un bilan, parce que c'est un bilan qui débouche sur une sacrée interrogation, parce qu'en fait, rien n'est fini, et on a presque l'impression que, effectivement, et heureusement, le nombre de victimes dans les hôpitaux et aussi dans les morgues diminue, et c'est un bonheur, mais d'autres choses ne font que commencer. Alors, qu'est-ce qui ne fait que commencer, Serge Federbouch?
Ce qui ne fait que commencer, c'est les conséquences financières. D'abord, personne ne va en parler. Hein. C'est quelque chose qui est mis sous le tapis. Mais il y a à peu près 300 milliards d'euros de détruits, en fait, de richesses détruites. On parle des Français qui ont fait de l'épargne, mais ça ne compense pas, loin de là, la destruction de richesses et de biens publics pour l'État. Donc on va se retrouver, on est déjà dans une situation financière absolument catastrophique, qui a pour conséquence qu'on est de plus en plus dépendant de la Banque Centrale Européenne et de l'euro pour financer cette montagne de dettes. Alors c'est vraiment le sujet, c'est le non-dit, personne ne veut parler de ça, personne ne veut le voir, c'est le quoi qu'il en coûte, parce que Macron, finalement, il rebondit là-dessus pour essayer de faire campagne électorale, c'est-à-dire que ça lui a donné un prétexte pour ouvrir les vannes de la dépense publique et préparer sa réélection.
Alors on va en parler tout de suite après les informations, on va en parler longuement, on va en parler jusqu'à 14h avec les auditeurs du Sud Radio sur cette étrange défense. Faites. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, de retour dans Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, André Berkov reçoit Serge Federbouch, qui est auteur du Covid Story, une étrange défaite, et c'est à VA Édition.
Alors, étrange défaite, effectivement, Serge Federbouch, et ce n'est pas par hasard, je pense que vous avez repris l'expression du grand historien Marc Bloch, avec étrange défaite, c'était évidemment la défaite de 40, hein, avec cette merveilleuse ligne Maginot, personne n'allait passer, ces généraux qui avaient tout prévu, la stratégie, etc. Et vous comparez, effectivement, on l'a fait déjà, mais c'est intéressant, et je voudrais que, justement, on parle de cette espèce d'extraordinaire guerre, comment on l'a menée, nous, nos soldats, nos généraux, nos maréchaux, effectivement. Combien de divisions, est-ce que les approvisionnements étaient là, etc., etc. Et nous constatons, en lisant votre livre, effectivement, vous le rappelez, qu'au fond, on y allait flamberge au vent, mais derrière, il n'y avait plus personne.
Oui, en fait, c'est cyclotimique, c'est-à-dire qu'il y avait, au départ, effectivement, des grandes proclamations de force et de confiance. On se souvient par exemple d'Emmanuel Macron, le 12 février 2020, déclarant à la terrasse d'un bistrot « ça fait partie de la culture française, jamais nous ne nous laisserons confinés ». Pendant ce temps-là, le virus donc commençait à se répandre en Picardie, dans la région de Compiègne, ça arrivait. Et puis ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Ça bascule, c'est un phénomène de bascule instantané, c'est-à-dire qu'on passe d'un excès de confiance à l'abattement. C'est ce qui s'était passé en 1940, hein. Ils ne passeront pas. Et puis on refusait même de croire les observations des aviateurs qui étaient allés voir les blindés de Guderian avaient enfoncé la frontière, ils étaient là, mais non, à l'état-major, ils refusaient les évidences.
Les blagues du Covid étaient là, et tout y était,
mais on disait encore, pas de soucis, tout va très bien, madame la marquise, buvez un coup à la terrasse des bistrots, alors que le mal était déjà fait, c'était trop tard. Mmh. Bon, ensuite, ça a continué à toutes les étapes, parce que moi aussi, l'objectif de ce bouquin, c'est de mettre en garde contre une forme de révisionnisme, parce qu'après une défaite, après des grands traumatismes comme ça, il y a toujours une forme de révisionnisme. Et donc, on va voir maintenant, avec le retour des beaux jours, la décrue peut-être temporaire de l'épidémie, parce qu'à mon avis, il y aura d'autres variants et il y aura d'autres
peut-être
vagues.
On ne sait pas. Ça, ouais.
Mais en tout cas, bon, c'est possible. On voit déjà le variant indien qui pointe son museau en Angleterre. Donc, eh bien, on passe effectivement à des phases ensuite d'abattement. D'accord ? Et à ce moment-là, on essaie de serrer la vis, on le fait mal, on le fait de manière indistincte.
Mais là, on a déjà serré la vis, c'est drôlement.
Oui, alors,
à quoi a servi le confinement, franchement?
Mais on a serré la vis parce qu'on n'a pas, vous voyez, c'était un marteau pour écraser une mouche. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Avant tout, il aurait fallu, évidemment, au départ, empêcher les allées et venues entre la France et la Chine. Il aurait fallu confiner, comme les Chinois ont fait, confiner la zone où le virus apparaissait en Picardie. Bon, ça n'a pas été fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu créer des lits d'hôpitaux, parce que un des rattaches principaux dans toute cette opération, c'est qu'on n'a jamais véritablement mis le paquet sur les lits d'hôpitaux, également dans les cliniques, parce que les cliniques privées n'ont pas été suffisamment donc sollicités. Utiliser, parfois, elles ont même été carrément exclues du dispositif, bon, pour des raisons un peu corporatistes. Et donc, à partir de là, on était débordés, donc il a fallu confiner tout le monde. À défaut d'une réaction ciblée, parce qu'on a un mammouth, c'est le mammouth de l'État-providence français, la grosse bureaucratie française, d'accord, ce gros corps malade, c'est un des titres, un des chapitres de mon livre, eh bien, on n'est pas alerte, on ne peut pas réagir de manière ciblée. Les Chinois, en un mois, ils ont créé un hôpital avec plusieurs milliers de lits. En gros, 25% de la capacité totale hospitalière en urgence, vous voyez, en intervention lourde française, a été créée en un mois par les Chinois, en un mois. On se met des barrières mentales, il y a toujours des questions statutaires, le rôle des infirmières...
Et puis la suradministration aussi.
Mais bien sûr, donc le Covid, ça a révélé, c'est le révélateur, presque un révélateur photographique, des maladies de l'administration, de l'État providence, de l'État obèse. De la même manière qu'il s'en est pris à l'obésité des individus, il s'en est pris aussi à l'obésité de l'État. Donc il y a une espèce de continuité dans la, finalement entre le social et l'individuel dans cette affaire. Et ça, c'est très intéressant. Et donc on a vu un État qui a oscillé entre, en fait, l'abattement, le laisser aller, l'inefficacité, et ensuite l'autoritarisme. Puisqu'on n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à ce moment-là, on confine tout le monde de manière indiscriminée, avec quand même un dispositif très contraignant. Il ne faut pas oublier qu'en matière culturelle, par exemple, et ça, on le disait peu, mais la France a été le pays au monde, pratiquement, qui a le plus fermé ses musées, ses cinémas, ses théâtres, avec des conséquences évidemment catastrophiques.
Les bars, voilà. Etc. Bon, etc.
On sait vaguement, on sait ce qu'on veut nous dire de ce qui se passe à l'étranger. On croit toujours qu'à l'étranger, soit c'est pire ou que c'est aussi dur. Mais c'est pas le cas. On apprend de temps en temps, tiens, il y a une petite musique, c'est bizarre. Tiens, à Madrid, ben, les bistrots sont ouverts et les terrasses sont ouvertes depuis longtemps. Ah ben là, oui, on est obligé de le dire. Ou en Belgique, les musées sont restés ouverts.
Ou en
on
Suède,
est obligé de le dire. Voilà. Suède, bon, alors en Suède, c'est radicalement différent. Ils ont pris le parti de l'immunisation collective. Oui. Et donc, ils ont eu à la fois, effectivement, plus de morts peut-être que d'autres États scandinaves, mais ils ont eu un impact économique extrêmement réduit et qui était pratiquement limité à la baisse de leurs relations avec les pays qui, eux, étaient confinés. Donc, ils n'ont pas perdu sur les deux tableaux, parce que le gros problème de la France, c'est qu'on a perdu sur le front sanitaire, on est un des États où il y a eu le plus de dégâts sanitaires, et en même temps, un des États où il y a eu le plus de dégâts économiques.
Alors que la létalité, elle était, enfin, 0,05%, il faut toujours rappeler ça, hein, c'était pas la pandémie avec la grippe, la peste noire, ça n'avait rien à voir. Mais juste un mot, pour revenir à l'étrange défaite au titre de votre livre, vous parlez très bien d'abord, c'est intéressant, vous vous rappelez du maréchal Pétain qui disait « je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal ». Mais il y en a eu des mensonges au début du Covid, vous le rappelez.
Il y a eu que ça, bon, le masque est trop difficile à utiliser, il n'est pas nécessaire, et puis il est indispensable. Il est peut-être indispensable partout, mais enfin peut-être pas à l'air libre, et puis on verra. Alors Biden a dit qu'il ne l'était pas, enfin vous voyez, on est constamment du début à la fin, ne serait-ce que sur cette histoire de masque, dans l'à peu près, et puis des positions officielles qui ne cessent de varier sur le nombre de lits d'hôpital. On en a suffisamment, vous inquiétez pas, il y en aura 10 000.
Et puis les tests, les respirateurs, etc.
Avant le mois de décembre 2020, il y aura 10, 15 000 lits, et puis finalement, il n'y en a pas 10, 15 000, il n'y en a même pas 5 000. Bon, tout est comme ça. La vaccination, on était quand même presque lanterne rouge pendant longtemps, mais c'est pas grave, on réécrit l'histoire. C'est le révisionnisme dont je parlais. On va réécrire l'histoire, on va essayer de jouer sur le fait que les Français ont envie de tourner la page, ils ont envie de revivre à nouveau, qu'ils ont envie d'être heureux, et puis bon, on va faire proclamer de plus en plus.
Sauf que les dégâts économiques arrivent, on en reparlera à Serge Federbouche, mais vous parlez aussi, c'est intéressant, du complotisme. Alors le complotisme, ceux qui osent poser des questions, ou sortir des balises, de les annonces officielles, eh bien ils sont complotistes. Par exemple, parlons, vous avez vu que récemment, et y compris Anthony Fauci et d'autres, n'excluent pas l'Américain, mais un peu partout, n'excluent pas qu'il y ait eu peut-être peut-être une fuite dans le laboratoire de Wuhan, le fameux laboratoire P4. Mais quand vous disiez ça il y a 3 ou 4 mois, comment, affreux complotiste, comment vous osez avancer? Mais non, c'est le pangolin et la chauve-souris, on ne sortait pas de là.
Ben, donc on était banni de Facebook, etc. Mais je vais vous dire, c'est le contraire. Pour penser que, alors qu'il y a très peu de laboratoires au monde qui travaillent sur le coronavirus, sur les coronavirus, et que tout à coup, à côté d'un de ces rares laboratoires, eh bien apparaît le virus en question, et que immédiatement les Chinois réagissent très durement, mais en cloîtrant pratiquement la population de la ville, parce
des millions,
ont, voilà, des millions de gens, il y avait 60 millions de gens qui ont été, mais là ils ont fermé les portes et les fenêtres, les gens étaient pratiquement obligés de bouffer leurs chiens, c'était ça, Wuhan, quand le truc est apparu. Croire que la bureaucratie chinoise qui, elle, est efficace, va se lancer dans une opération pareille alors qu'il n'y a pas un péril énorme en la demeure. Bon, mais pour être complotiste, je dirais le contraire, il faut être complotiste pour ne pas croire que c'est lié au laboratoire de Wuhan. Mmh. C'est le contraire. Comment est-ce que, par incroyable, un hasard incroyable, c'est précisément à l'endroit où il y a un laboratoire, un des rares laboratoires qui travaille là-dessus, que le problème apparaît? Il est évident qu'il y a un lien. Et les Chinois, qui contrôlent largement l'OMS, et que tout le monde craint aujourd'hui, parce que
les Chinois sont les principaux bailleurs de fonds de l'OMS aujourd'hui.
Eh bien, ils ont réussi, c'est quand même un exploit extraordinaire. Bon, sauf que Biden, maintenant, qui reprend le bras de fer que Trump avait engagé avec eux, eh bien, il a mis sa main à la place de celle de Trump face à la Chine, et lui, il ressort le dossier. Et là, ça va aller jusqu'au bout, maintenant. Il a demandé à la CIA, ou je ne sais trop quel organisme, qu'on lui dise dans les 2 mois qui viennent, ou dans le mois qui viennent, quelle est la vérité sur cette opération. Et là, on va savoir ce que la logique et le bon sens, si on n'a pas des œillères, devait évidemment, faire pressentir, à savoir qu'il serait quand même extraordinaire que le virus apparaisse comme par hasard à cause d'un pangolin et d'une chauve-souris à un endroit où il y a un laboratoire qui travaille sur le sujet.
En tout cas, on peut se poser la question sans passer pour ceci ou ceci ou cela.
Bien sûr.
C'est la moindre des choses. On n'a pas réponse à tout, on a question à tout, je le dis tout le temps. Mais pour revenir à la gouvernance de notre cher et doux et vieux pays, Serge Federbouch, parlons un peu de cette gouvernance. Ça a été le monde entier qui a été atteint, on le sait, c'est pas banalité de base que de le répéter, mais cette gouvernance, en fait, elle vous apparaît comment, avec un an et demi de recul?
On voit justement les travers de l'État mammouth un peu français, c'est-à-dire, on commence par, faire jouer le registre de l'État nounou. On va porter secours à tout le monde, quoi qu'il en coûte, etc., etc. Mais il faut quand même être autoritaire. Et puis il y a une espèce, alors là, je pense que c'est dans le tempérament de Macron, il y a un côté un peu sadomaso, c'est-à-dire que on sent quand même une espèce de jouissance à imposer des contraintes,
masques. Vous parlez de lui comme de pervers narcissique.
Il y a quand même un peu de ça. Je sais qu'il y a eu, faut pas faire de psychanalyse sauvage à l'antenne d'une radio, mais enfin, on sent quand même qu'il peut y avoir un certain goût à redresser un peu une population indisciplinée qu'il venait, parce qu'on sortait à peine de la crise des Gilets jaunes, et ça a été extrêmement important dans les décisions qui ont été prises, parce que le pouvoir avait peur de la population, avait peur de l'opinion. Et donc, ça explique à la fois qu'il cède énormément du point de vue économique avec des aides partout dont il est difficile de sortir aujourd'hui, et en même temps qu'il essaie de serrer la vis avec des contraintes sur les rassemblements, sur la possibilité de se parler, de sortir, de manifester, etc., etc. Donc, les deux sont vrais en même temps, pour reprendre un vocabulaire macroniste, c'est-à-dire qu'en même temps, on est l'État, donc nounou, tutélaire, on donne de l'argent, on pense les plaies pour essayer de trouver une légitimité, et en même temps, on écrabouille les opposants, les voix dissidentes, et on interdit toute manifestation, justement à ce prétexte sanitaire qui, vu que, selon la Boétie qui disait qu'il y a une servitude volontaire qui est propre à l'homme, eh bien, il y a quand même toujours une population qui est sans doute majoritaire, qui n'est jamais tout à fait réticente à abdiquer sa propre liberté dès lors qu'on lui donne un bon prétexte, au prétexte de sa sécurité, en particulier sanitaire, et donc c'est d'autant plus facile. Et on se retrouve, évidemment, tout ça, ça n'est efficace que tant qu'on peut donc donner de l'argent d'un côté, et tant que la population peut supporter les contraintes de l'autre. Comme la population ne peut plus supporter les contraintes, on finit heureusement par les lever, on fixe des normes sur les contaminations qu'on ne respecte pas, on lève quand même, vous voyez, on autorise la rouverture des terrasses et ensuite de tous les restaurants. Et
mais parce que ça n'a plus aucun sens. Mais ça n'avait déjà plus aucun sens.
Mais bien sûr, ça fait longtemps que, on sait bien qu'à l'air libre, si les gens respectent un minimum de distance et de prudence, le masque ne sert pratiquement à rien. Mais malgré tout, les gens, maintenant, ils sont attachés à leur servitude, d'une certaine manière, pour une part importante d'entre eux. Donc, on est quand même, parce qu'il y a beaucoup de mécontentement, obligé de lever ça. Et puis, à côté de ça, eh bien, on va devoir serrer donc les cordons de la bourse, parce que l'État ne peut plus financer, puis on est de plus en plus dépendant, c'est ce que je disais au départ, du bon vouloir de Bruxelles et Francfort, qui peuvent siffler un moment ou un autre la fin de la récréation. Rien à marre maintenant...
Par la hausse des taux d'intérêt, et la blanche à billets, c'est très bien, mais jusque à quand, voilà. Comme dit l'autre.
Exactement.
On va se retrouver après cette petite pause avec les auditeurs de Sud Radio, avec Serge Vedrabouche et cette étrange défaite.
Et voilà, évidemment, pour prendre la parole, vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, c'est le moment où les Français parlent aux Français et les auditeurs de Sud Radio parlent à André Berkov et Serge Federbouche. Et bien tout de suite, la parole à Dominique qui nous appelle de Châtenay-Malabry. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Dominique.
Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Monsieur Federbouche. Alors je suis totalement d'accord avec votre constat d'une étrange défaite, avec une gestion sanitaire désastreuse et une gestion des finances publiques qui est encore plus désastreuse. Alors ma question est la suivante. Malgré ce constat, je dirais objectif, c'est-à-dire une espèce de procès-verbal d'huissier qui a été dressé, qui est, me semble objectif et assez évident, le président Macron conserve une cote relativement élevée dans l'opinion publique, et ce, avant même qu'il ait entamé son tour de France. Alors vraiment, je me pose la question, est-ce que l'étrange défaite sanitaire et financière peut se transformer en étrange victoire du président Macron malgré tout ce qui s'est passé? C'est-à-dire, comment expliquer le niveau actuel de popularité peut se surajouter à ça une propagande d'État, une propagande tout court, qui risque malgré tout d'entraîner sa victoire? Franchement, je me pose la question. J'ai une seconde question, excusez-moi, subsidiaire.
Allez-y.
Est-ce que le régime actuel peut être qualifié de néo-poutinien ou de régime poutinien atténué, pour prendre un terme lié au virus.
Voilà. Vous voulez dire une russification soft, c'est ça?
Ouais, soft, c'est-à-dire les mêmes fins, mais avec des moyens détournés, et disons plus compatibles avec notre démocratie.
Eh bien, Serge Federbouche.
Alors, sur la popularité de Macron, pour autant qu'on croit au sondage, ce qui est évidemment toujours sujet à caution, mais on va pas en débattre immédiatement. Je pense que d'abord, il y a un phénomène purement conjoncturel. On sort d'une crise, bon, ça va un peu mieux, le beau temps revient, bon, ça améliore les esprits, les humeurs pécantes, comme disaient les anciens. Bon, donc ça, il peut en bénéficier. Et puis il y a deuxièmement un facteur un peu plus pérenne, mais malheureusement pour lui, qui d'une pérennité inconnue, on ne sait pas combien de temps ça durera, c'est qu'il arrose tout le monde, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens, des centaines de milliers, sans doute des millions, au chômage partiel. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui continuent d'être aidées. Il y a beaucoup de gens aussi, bon ça c'est un peu un non-dit, mais autant dire les choses comme elles sont, qui n'ont pas si mal vécu. Vous voyez, le confinement ou le télétravail, ça leur a permis de se retrouver un peu leur vie de famille, ça a permis de baisser la tension de la vie en entreprise. Donc, le bilan n'est pas forcément négatif pour tout le monde. Et toutes les professions protégées, d'une certaine manière, fonctionnaires, tous les gens qui ont des revenus garantis par l'État, directement ou indirectement, n'ont pas forcément encore tous souffert de ça. Donc, ça peut créer un climat transitoirement positif. Le problème pour Macron, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir comme ça jusqu'en mai 2022 pour entourlouper tout le monde une deuxième fois et se faire réélire? Alors là, c'est les forces de rappel qui entrent en jeu. Les forces de rappel, c'est quoi effectivement? C'est la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. L'inflation d'abord, la hausse des taux d'intérêt ensuite. Si on n'arrive pas à juguler les problèmes économiques qui vont forcément apparaître. Quand on va sortir des aides, il y a des entreprises, c'est comme quand la marée recule, on va retrouver des entreprises sur le carreau avec de très très nombreux chômeurs. On voit déjà les commerces à Paris ou dans d'autres grandes villes dont certains ont fermé définitivement la porte, ça va se voir. Et puis il va y avoir une situation budgétaire inextricable. Avant ou après les élections, on va devoir payer le prix. La Banque Centrale Européenne va nous demander des réformes. Ils sont plutôt pro-Macron, ils seront relativement soft.
Oui,
mais
oui,
quand même, il y a aussi les Allemands derrière, il y a des gens qui ne veulent pas payer pour les Français ad vitam aeternam, et donc il va entrer dans un exercice compliqué. Pour l'instant, il va essayer d'essayer de s'agiter, de partir un peu partout, de faire sa tournée des popotes, son nouveau grand débat finalement, et puis de faire oublier les problèmes jusqu'en mai 2022. Est-ce qu'il parviendra à tenir mai 2022 ou pas? C'est la question.
Qui votera verra.
Voilà, mais c'est pas garanti, je crois qu'il sait parfaitement que c'est pas garanti. Et évidemment, quand on chasse un problème par la porte, il revient par la fenêtre. Alors juste un dernier exemple pour répondre à votre question. Comment est-ce que ça peut tourner au vinaigre, toute cette opération? Il y a des gens qui sont protégés à l'intérieur, en France, des conséquences.
Parce qu'il y a l'État protégé.
Voilà, l'État. Mais il y a des gens qui ne sont pas protégés, aussi bien en France que même à l'étranger. Bon, les États-Unis, le Japon, la Chine ou l'Union européenne peuvent faire marcher la planche à billets. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas. Le Liban, le Brésil, et des très gros, les pays d'Afrique du Nord. Et ceux-là, à ce moment-là, eux, ils se prennent le ralentissement économique et la destruction des échanges internationaux en pleine figure. Et donc, eux, ils ont une vraie récession. Et ça donne quoi? Ça donne des migrants qui arrivent à Ceuta. Ça donne des marchés qui vont se fermer au Brésil ou ailleurs. Ça donne, par exemple, beaucoup plus près de nous, la perpétuation des problèmes avec la Grande-Bretagne. Et c'est pas lié qu'au Brexit, c'est lié aussi à ces problèmes de variants. Donc, ça va nous rattraper. À quel moment? À quel moment est-ce que le calendrier du réel va entrer en conflit avec le mensonge politique? Ça, c'est toute la question.
Et juste la seconde question de Dominique sur la poutinisation éventuelle.
Bon, la poutinisation, pour autant qu'on la résume à un contrôle des médias, ça, c'est sûr que, bon, il y a une forme de poutinisation. Moi, je suis, bon, désolé pour eux, mais je vais quand même donner des noms. Hein. Quand on voit, effectivement, la façon dont l'Express, Le Point, aujourd'hui en France, bon, on nous explique, voilà, Macron, il y a du Macron à toutes les sauces, il est passé par ici, il repassera par là, les unes. Bon, c'est évident qu'il y a un contrôle des médias, il a été très largement élu grâce à ça, en 2017, le danger pour lui, c'est de perdre l'appui des oligarques qui possèdent un certain nombre de médias. Donc, il faut qu'il leur montre que, oui, il est bien le dernier rempart contre la bête immonde qui pourrait prendre le pouvoir, voilà, ou tous ceux qui pourraient les gêner dans leurs opérations financières. Et donc, bon, il va évidemment avoir le soutien de ces gens-là tant qu'il passera pour le rempart et la garantie pour eux.
Oui, tant qu'il passera pour le bon défenseur de l'ordre.
Le bon défenseur de l'ordre et de leurs intérêts en particulier.
Allez, immense. Vous continuez de nous appeler 0826-300-300. On se retrouve dans quelques minutes.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous continuons de vous donner la parole, puisque vous nous appelez 0826-300-300 avec André Berkoff et Serge Schoederbusch. Tiens, je rappelle le titre de son livre, Covid Story, une étrange défaite à VA Édition. Et nous allons à Arcachon, nous donnons la parole à Yves. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Yves. Bonjour. Monsieur Berkoff, Monsieur Schoederbusch. Oui, simplement, tout d'abord, je voulais partager une réflexion que je me fais depuis un moment, mais hélas, de plus en plus désormais. C'est que de nos jours, Don Quichotte a du mal, vu la taille des éoliennes. Bon, par rapport au sujet de M. Schoederbusch, bon, je ne suis pas sûr que la résignation soit éternelle. Bon, il y avait eu la réaction des Gilets jaunes à un moment, mais typiquement sur la Covid, je voudrais rappeler deux choses dont on ne parle plus. C'est de la tentative que avait eu Macron et les bien-pensants du gouvernement de confiner tous les vieux au tout début de la pandémie.
C'est vrai que ça a été évoqué.
Généré un tollé. Ouais. Et puis, et également sur l'interdiction des cultes, où là, il y a eu une réaction de l'Église et des fidèles qui ont amené peut-être à modérer un peu leur désir. Voilà.
Oui, vous dites qu'en fait, oui, heureusement, d'ailleurs, le pire n'est pas toujours sûr, donc la servitude volontaire et la résignation ne sont pas toujours sûres.
Par contre, il faut réagir. Voilà.
Bah, c'est clair.
Oui, en fait, ça, c'est le fonctionnement de l'État de plus en plus, hein, dans une 5e République déliquescente. En gros, l'État est face à des groupes de pression, des communautés, des lobbies, des organisations, des associations, et puis quand il y en a qui commencent à devenir méchants, eh bien, voilà, souvent, malheureusement ou heureusement, l'État recule. Et c'était ça qui les avait désarçonnés, d'ailleurs, pendant la crise des Gilets jaunes. Parce que là, c'était une espèce de format, de mouvement un peu mouvant, oui, qui allait de qui agrégeait des groupes très différents qu'on aurait cru disparaître.
Puis et c'était la France des profondeurs.
Voilà, c'était, et là, ils étaient les bras ballants. Et de la même manière que Macron a paniqué au début du Covid, il avait paniqué aussi au moment au début des Gilets jaunes. Ça, oui, ça a suivi exactement la même séquence, vous voyez, monsieur.
Surtout qu'il s'attendait à 500 000 morts. Vous vous rappelez qu'il avait appelé le modélisateur,
oui,
Ferguson.
Enfin, là, c'était peut-être aussi pour faire peur à tout le monde, hein, pour justifier.
Non, mais il a eu la
trouille. Oui, non, mais au départ, c'est tout va très bien, madame la marquise, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, donc je vais vous régler ça en deux coups de cuillère à peau. Les gilets jaunes, c'est pas grand-chose, et le Covid, c'est pas grand-chose. Ensuite, panique à bord, au puits, quand il sort pour la première fois de son palais, pratiquement, il a failli se faire lyncher. Alors là, c'était la panique, et il est passé à quelque chose de beaucoup plus dur. Même chose pour le Covid, il passe ensuite de l'euphorie à la panique. Il y a un côté cyclotimique, hein, dans les réactions du personnage, comme dans les réactions de l'État ensuite. Et ça, ça explique un peu ses déboires. Évidemment, bon, quand les gens se rebiffent, eh ben, c'est beaucoup plus dur d'imposer des situations, des solutions et des politiques qui sont pas acceptables.
Clémence.
Merci, oui, et bon courage.
Merci bon monsieur.
Peut s'attaquer à plusieurs sujets.
Merci beaucoup, merci. Yves. Allez, on donne la parole à Sylvie, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour Sylvie.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Alors, je vais revenir sur un sujet, le sujet précédent de Sergi. J'ai écouté ce que vous avez s'est passé sur les ondes de Sud Radio. Oui. Et quand j'ai écouté ce personnage, bon, d'abord j'étais sidérée, enfin j'étais voilà. Mais... Et quand j'ai écouté ce personnage, moi, ce qui m'est qui m'a sauté à l'oreille, je dirais, c'est les 800 ans. On vous a vendu pendant 800 ans. Ouais. En fait, il s'est trompé, ce personnage. Parce qu'en fait, le monde arabo-musulman, en fait, a effectué un génocide pendant 13 siècles du continent africain, il ne faut pas l'oublier. Et oui, d'ailleurs, vous aviez reçu, je crois, il y a très longtemps, M. Ndiaye, qui a écrit « Le génocide voilé » et qui est un livre que tous les profs d'histoire devraient donner à leurs élèves, mais ça n'a jamais été le cas. Même moi, quand j'étais étudiante, on nous l'a jamais montré, on nous l'a jamais,
oui,
et voilà,
et, oui,
pourtant,
oui.
Et pourtant, il a été tué, il est paru, je crois, en 2015, si mes souvenirs, même
2008,
avant. Même
2008, avant, 2008, le génocide voilé, et je vous, juste, Sylvie, je vous interromps, pour vous donner le conseil de Bernard Lugan, lisez le dernier livre de Bernard Lugan, qui parle de la même chose, et le scandale, c'est qu'on ne parle que d'une traite négrière, la traite transatlantique, et on ne parle pas des deux autres traites négrières qui ont été plus meurtrières encore.
Ben oui, parce qu'il n'y avait pas de descendance, parce qu'en fait, comme c'est un génocide, comme on
est castré, les petits garçons
qui se vidaient, ben voilà, ils se vidaient de leur sang, donc il y avait forcément, hein, donc voilà, enfin entre autres, et donc ça m'a vraiment heurtée, et ça c'est un élément de l'histoire qu'il va quand même falloir réveiller, pour que nous puissions nous réveiller, parce qu'à un moment donné, il suffit, ces gens-là n'ont plus de surmoi, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'on fasse, je crois qu'on ne pourra rien faire. Donc, à un moment donné, il faut prendre... Je ne sais pas. Mais là, nos politiques sont là pour ça.
Ben, à un moment donné, il faut se défendre, Sylvie. Il faut se défendre.
Oui, enfin...
Je ne dis pas de l'autodéfense. Je ne dis pas prendre les armes. Hein.
Non, mais il faut se défendre. Oui, mais il faut se défendre. Mais est-ce que les politiques, je dirais, quelque part, apparemment, ils n'ont pas trop... Excusez-moi, j'aime pas utiliser des mots vulgaires, mais...
Oui, je comprends.
Voilà, il faut avoir...
Ils ont été castrés.
Voilà.
Je voudrais intervenir avec l'autorisation d'André, hein, on ne va pas parler que de Covid, même si c'est le bouquin sur le Covid, sur ce sujet, parce qu'effectivement, j'ai entendu toutes ces invectives horribles, et ça renvoie en fait un peu à la question de l'islam, parce que l'islam, et en France c'est particulièrement vrai, a quand même fourni une espèce de cadre unitaire, de mode de vie en commun.
J'irais l'islamisme,
Mais même l'islam entre noirs et arabes, un peu en Afrique, mais surtout, d'ailleurs, dans les diasporas, vous voyez, bon, comme en France. Et donc, ça, on voit bien dans les banlieues, c'est que les jeunes noirs et les jeunes arabes, souvent, cohabitent grâce à la religion. Mais les haines ethniques qui existent entre les deux groupes, moi je connais assez bien l'Afrique du Nord et bon, le racisme contre les Noirs qu'on peut rencontrer au Maroc ou en Algérie est extrêmement profond et violent. Bon, ça risque un jour, cette espèce de situation communautaire risque de l'emporter sur ce ciment musulman et on va avoir non seulement des conflits entre, je dirais, les Français cette souche et puis des populations qui n'auront pas réussi à s'assimiler, mais surtout, peut-être même avant ça, des conflits entre les différentes communautés qui ont été accueillies sur le sol français.
Mais et plus que ça, enfin, on pourra en parler, mais on pourra parler pendant des heures, on a fait des émissions là-dessus. On sait très 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 bien qu'aujourd'hui encore, il y a de l'esclavage noir dans certains pays comme la Libye, la Mauritanie, etc. Vous le savez, Sylvie. Et puis deuxièmement, je rappelle qu'en arabe, il faut le dire ça, le mot abed, c'est-à-dire abed, veut dire à la fois noir et esclave. L'un des plus grands poètes arabes de tous les temps, qui s'appelle Al-Mutanabbi, disait, je parle arabe, il disait « La tashtaril abdu illa wal asa ma'ahu ». Je traduis, ne n'achète pas ton esclave sans acheter le bâton. Et ça, c'est un des plus grands poètes arabes qui disait ça. C'est-à-dire, il y a ce problème-là. Donc, effectivement, à un moment donné, ça ressort. Et ce que vous avez entendu là, et c'est pour ça qu'on l'a montré, qu'on l'a dit, le racisme, qui est une tare absolue, ce n'est pas l'apanage de telle ou de telle ou de telle communauté. Il y a les racistes partout, et il faut les combattre partout uniment. Mais pas cette géométrie variable, pas cette repentance imbécile, et pas ces deux poids et deux mesures. Voilà.
Voilà.
Merci. Oui. Sylvie, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ?
Non, je crois que vous avez dit l'essentiel. Et puis, bah, si, peut-être, que tant qu'on y est, il est intéressant aussi au niveau historique de voir que on dit toujours Hitler extrême droite, Mussolini extrême droite, mais moi, je pense que c'était avant tout, et je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était socialiste, hein, national-socialisme,
oui,
et que c'était quand même, Hitler était un grand ami de l'imam de Jérusalem. Vous pouvez le savoir aussi.
Non, mais
à un moment donné, il faut que les gens regardent l'histoire, parce que c'est bien gentil. Oui, mais le passé. Mais ça, c'est important. Je veux dire, ça fonde.
Oui, je suis
aussi
d'accord. C'est pour ça que
les racines même d'une haine. Et ça, c'est comme ça, quoi. Il faut faire quelque chose.
Il faut, vous savez, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est un vaste programme, c'est les travaux d'Hercule.
Oui, mais le problème, c'est qu'à l'école, on ne vous apprend jamais ça, M. Berkoff.
Voilà pourquoi il faut changer les programmes, sinon changer les gens. C'est bien ça le problème.
Bon courage.
Écoutez Sud Radio.
Écoutez Sud Radio.
Allez, on donne la parole Clémence. À Samy qui nous appelle de Mitry-Mory. Bonjour Samy.
Oui Samy, bonjour.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à Sud Radio, merci de nous donner la parole. Et donc moi, en fait, j'aimerais interagir sur ce qui s'est passé à Cergy.
Oui.
Je trouve que c'est... franchement, c'est désolant, c'est, j'ai même pas de mots, en fait, pour vous dire, parce que bon, moi, je me suis tout le temps, je suis en déplacement pour mon travail, et au lieu de réussir, on est en France, c'est à Paris surtout, c'est une ville de réussite, il y a du travail, il y a de tout, il y a des jeunes qui sont là, rien à foutre la merde, à nous canaliser, à nous salir. Excusez-moi, je suis un peu direct, mais là,
mais je comprends.
Je sais pas quoi dire en fait. C'est toujours pareil, toujours les mêmes. Toujours. Moi, je suis marocain, hein, donc c'est.
Oui, mais vous savez, il y a dans toutes les, encore une fois, tous les milieux, il y a les mêmes crétins, que ce soit blanc, noir ou autre, etc.
Oui, c'est pas une question de ça. Nous, on arrive à un niveau, c'est désolant, quoi. Mais bon, après, autre chose aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait peut-être que nos gouvernements commence peut-être à ouvrir les yeux, ne pas attendre à chaque fois qu'il se passe un acte comme ça qui est médiatisé pour voilà. Là, il faut remettre l'armée. Il y a pas d'armée. Les jeunes n'ont pas été à l'école cette année. Ils sont livrés à eux-mêmes. Franchement, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'insécurité. Voilà, moi, je veux pas faire la leçon à nos hommes politiques, mais il faut remettre l'armée. Il faut sévir, hein, parce que là, ça va aller mal. Hein.
On est d'accord. D'ailleurs, vous avez vu, comme par hasard, le service militaire qui faisait ce qu'il faisait, mais enfin, c'était pas quand même la plus désolante des choses, a été supprimé par Chirac en 95 et un peu plus tard. Et pourquoi ? Alors que tout le monde était sous le même uniforme, c'était déjà pas mal, en tout cas d'une certaine manière.
Ça a éduqué les jeunes, c'est ce qu'il faut maintenant. C'est soit l'armée, soit les commissariats et les prisons, hein, donc, pour les jeunes. Donc voilà, il faudra choisir.
Ça nous ramènera au sujet du Covid, hein, mais c'est vrai que cette histoire de désociabilisation, comme on dit dans un vocabulaire compliqué, à l'école, hein, les mômes qui vont plus à l'école, les étudiants livrés à eux-mêmes, il y a eu beaucoup de suicides de jeunes étudiants qui étaient complètement paumés, hein, ça c'est aussi, on ne mettra peut-être pas dans la catégorie des victimes du Covid, mais il faudrait le mettre. Hein. Bon. Et tout ça, ça fait que c'est une espèce de virus qui s'en prend au fonctionnement social naturel, normal. Et ça ne va pas être si simple que ça de retrouver un fonctionnement normal.
Mais je crois qu'il y a une phrase, je le dis dans ce livre que je recommande, le livre de Serge Federbusch, Covid Story. Vous avez rappelé quand même, Serge Federbusch, une phrase de Freud qui est très forte, que je ne connaissais pas. On ne peut pas connaître toute l'œuvre de Freud. Mais vous dites ceci, enfin, Freud écrit ceci que vous citez. La vie des êtres humains entre eux ne devient possible qu'à partir du moment où il se trouve une majorité plus forte que tout individu et faisant bloc face à tout individu. Le pouvoir de cette communauté s'oppose dès lors en tant que droit au pouvoir individuel condamné comme violence. C'est le remplacement du pouvoir de l'individu par celui de la communauté qui constitue le pas décisif vers la civilisation. Et c'est bien ça le problème.
Oh bah, c'est l'individualisation
absolument généralisée de tout. C'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai des droits, j'ai aucun devoir. Ça donne ça.
Ben, Freud, il est intéressant par plein des aspects et curieusement, pas forcément simplement du point de vue psychanalytique. Ses plus grands écrits, quand il a cessé de faire de la psychanalyse, finalement, c'était sur la réflexion sur la religion avec Moïse et le monothéisme ou sur donc, le fonctionnement social. Et le fait de, dans un espace donné, dire que désormais, vous voyez, les règles, les individus doivent se conformer parce que ça, on vit là-dedans, on n'imagine plus que ça puisse être autre chose. Mais dire que dans un espace donné, le groupe va vous donner les droits et les libertés que vous avez, bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi naturel que ça. Bon, qu'un individu, un monde où les individus pourraient, affranchis des idéologies ou des États, circuler plus facilement, une espèce de, vous voyez, de paradis libéral, on dirait. Et donc, là, le fait que
c'est
les États... C'est
le rêve de la gouvernance mondiale,
voilà.
Ça.
Oui, mais sauf qu'eux, ils veulent gouverner mondialement. C'est pas donner la liberté mondialement. C'est pas la même chose. C'est plutôt la dictature mondiale que la gouvernance mondiale ou la liberté mondiale. Mais l'État qui organise l'espace et prive les individus de leur liberté, c'est quelque chose d'assez profond. Et le Covid renvoie à ça, parce qu'il y a un durcissement quand même, un recul des libertés publiques dans le monde entier dans cette opération.
C'est clair.
Allez, vous continuez tous de nous appeler 0-826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, André Berkov dans tous ses états avec son invité Serge Chetarbouche. Mais vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous réagissez sur Sud Radio au 0-826-300-300. Allez, on donne la parole à Jacques qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Bonjour.
On vous écoute Jacques.
Voilà, tout à l'heure vous avez parlé du labo, enfin du laboratoire à Chine.
De Wuhan, oui.
Wuhan.
Oui.
Voilà. Et j'ai l'impression que vous étiez d'accord avec ce que je pense moi.
Avec ce que.
Ce que je pense moi.
Oui. Vous pensez quoi, moi, Jacques?
Moi, je suppose que. C'est peut-être pas un attentat, mais disons qu'il y a eu une fuite et que les gens, au lieu de les confiner directement, ils les ont laissés partir et d'où la pandémie.
Ben, c'est possible. Ben, c'est une des hypothèses, en tout cas, qui est avancée. On n'a aucune preuve à l'heure où on vous parle. On n'a vraiment aucune preuve, donc on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Mais disons que c'est une des pistes que les personnes cherchent actuellement. Mais on n'a aucune preuve, donc on ne peut pas affirmer ça. Ce serait un mensonge. Mais,
moi, je vais vous dire, j'ai pas mal de copains, d'amis.
Oui.
Et on joue à la pétanque, enfin, je jouais à la pétanque parce que j'ai le pied dans le plâtre, je ne peux pas le poser. Donc,
c'est bien ça.
Qu'est-ce
qui vous est arrivé? Il vous est arrivé un accident?
Ouais.
Ah d'accord.
Ah, là, là. Mais je croyais que la pétanque, ça venait de pétanquer le pied justement qui ne peut plus bouger là, parce qu'on ne doit pas trop bouger le pied.
Ah et bon
ouais. Ouais, pétanquer. Ah, oui.
Pétanquer.
Et alors moi, je viens de parler avec certains. Et sur toute l'équipe qu'on est, disons, il y a 90% qui pensent la même chose que moi, quoi.
Bah écoutez, on verra bien. On verra bien, Jacques. Je vous promets que dès qu'on le saura et dès que les enquêtes seront avancées, eh ben on en parlera. Merci.
Je vous donne
Clémence.
Quand même les références de livre de Brice Perrier que nous avions reçu ici, d'ailleurs,
oui,
hein, Jacques.
Exact.
Et vous pouvez réécouter son interview, c'était la semaine dernière. Allez, on donne la parole à Marie et qui nous appelle de Mimizan. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Marie.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour votre invité.
Oui, vous le saurez jamais pour Juan. Ce sont des laboratoires de niveau 2 et 3 qui n'ont pas les normes de sécurité comme le niveau 4 qui sont en cause. Bon, mais vous le saurez pas. Alors, pour en revenir à Monsieur Macron, tout simplement, la dette, elle va se payer, mais elle va pas se payer avant 2022. C'est obligatoire qu'elle se paye parce que faut pas rêver. Vous savez très bien qu'une dette, ça se règle et l'Allemagne et les pays nordiques seront là pour nous le rappeler. Simplement, la finance qui soutient quand même l'élection de Macron. Macron leur a fait de merveilleux cadeaux lorsqu'il a fait des emprunts. Plus de 50% de ces emprunts sont allés dans le système financier, dans les banques, ce qui explique d'une façon qui n'est pas naturelle la hausse de cette bourse qui ne correspond absolument pas au niveau des marchés à l'heure actuelle et qui simplement, après 2022, repartira à la baisse. Ça, c'est une chose. Donc, 2022, Macron a effectivement... n'interviendra pas, le chômage partiel sera donc bien financé, les entreprises toucheront le maximum de ressources, ils n'auront pas sans faire, il assure son élection d'une façon ou d'une autre. C'est après que tout va se dégrader. Je ne pense pas que Marine Le Pen, avec son problème de sécurité, le problème de sécurité de la France, soit assez puissant pour faire basculer M. Macron, étant donné que à droite, c'est la dispersion, c'est l'effilochement, il n'y a plus personne, ni à droite, ni à gauche. D'ailleurs, avec l'islamo-gauchisme, c'est fini. Donc Macron est tout seul, et pour le moment, il assure sa réélection. Après, on paiera la dette.
Donc pour vous, Macron est pratiquement d'ores et déjà réélu, pour vous
Les médias, les sondages le disent. C'est pas une question de front républicain, il n'y en aura peut-être même pas. C'est une question que les Français n'iront pas voter au second tour. Tout simplement, pour ceux qui ne veulent ni de Marine Le Pen, ni de M. Macron, la gauche, une partie de la droite, les écologistes, tout ça n'iront pas voter ni pour Macron, ni pour Le Pen.
Mais alors, dites-moi,
d'accord. Il sera élu avec 20-25% des Français.
D'accord, oui, enfin, ce sera une grande victoire de la démocratie, ça, hein, on peut le dire. Mais vous, Sylvie, alors dites-moi, pardon, pour la France, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait pas, alors on attend de voir, on les laisse jouer, et puis voilà, ce Marine Le Pen ou Macron, etc., on fait quoi? On fait rien?
Est-ce que nous avons le choix? Est-ce que vous avez le choix? Vous entendez partout les médias qui tapent sur Marine Le Pen. Moi, je la soutiens pas spécialement. Elle, c'est pas le problème.
Non, mais j'ai compris.
C'est déjà. Vous aurez Manuel Valls qui va se rallier sûrement à Macron. Vous allez voir la volée qui va lui fiche après Dupont-Moretti. Non, les Français, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité énormes, mais les Français, ce qu'ils veulent, c'est être assurés de travailler ou de leur faire croire qu'ils vont pouvoir travailler.
Oui, attendez, voilà. Attendez. Si vraiment les Français passent ça, alors ils n'ont pas à se plaindre, les Français, alors qu'ils se taisent. S'ils ne sont pas capables, je vais vous dire que je pense profondément, s'ils ne sont pas capables de bouger leur cul une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 4 ans pour aller voter pour le moins pire, je ne dis pas pour le meilleur, pour le moins pire, à ce moment qu'ils se taisent. À ce moment-là, mais je vous assure et je le dis à tous les auditeurs du Sud Radio, ou vous allez voter, ou vous la fermez et vous votez blanc si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas à la fois protester, dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et puis rester chez soi en disant on va voir, et après on dit oulala, ça ne va pas, on se plaint. Ça suffit, on n'est plus dans l'ère des pleurnicheries, on n'est plus dans l'ère des plaintes. Alors, c'est terminé ça.
Alors André, je voudrais dire deux choses. D'abord sur la dette, c'est paradoxal. À la fois, il va falloir la payer, mais à la fois, on n'aura pas les moyens de payer. On ne pourra pas. C'est trop énorme maintenant. Évidemment, on ne peut pas imposer 500 millions d'euros d'économies annuellement à l'État. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver des milliers de milliards d'euros? C'est impossible. Alors, ça va se terminer très probablement en effondrement, en banqueroute ou en inflation. À quel moment? On n'en sait rien. Ça peut prendre de 1 à 10 ou 15 ans, hein, parce qu'ils inventent encore des...
Ça peut pas ne pas...
On ne peut pas rembourser cette dette. C'est impossible. Donc, on a détruit notre industrie. l'industrie en partie aussi à cause de l'euro surévalué. Donc on n'a pas les moyens économiques, on n'a pas les entreprises aujourd'hui pour créer la richesse qui permettrait de payer des impôts, qui permettrait de payer la dette. Donc c'est foutu, c'est fini, c'est mort, c'est plié. Alors maintenant, ça se termine comment dans ces cas-là ? Historiquement, c'est toujours les mêmes procédés. Il y a banqueroute et ou inflation avec un ordre qui peut varier. Et ça se terminera comme ça. Alors maintenant, quand et comment, on n'en sait rien, mais il n'y a pas d'issue. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, sur, c'est vrai que Macron compte beaucoup sur le fait qu'il y a
des abstentions.
Alors, il va distribuer de l'argent, tenter plus l'argent qu'il n'a pas.
C'est grave.
Bon, mais l'abstention, ça pose quand même un gros problème. C'est que ça crée... C'est un peu comme Jospin en 2002, vous voyez. C'est que ça crée, parce qu'il y avait eu un peu d'abstention dans son électorat, ouais. Puis ceux qui étaient partis sur Chevènement
aujourd'hui, on a vu les élections municipales.
Oui, mais ça crée des résultats aberrants. Les gens se réveillent. Ah bah tiens, bah c'est bizarre. Tout peut se passer, en fait, en 2022. Tout peut se passer. Donc, ouais. Moi qui ne suis pas macroniste, vous l'aurez compris, je ne suis pas si pessimiste que ça. C'est-à-dire que, bon, il y aura un problème de second tour, aussi bien pour Marine Le Pen que pour lui. Hein, parce que le problème de la réserve de voix qui jouait avant pour, évidemment, le Rassemblement National qui était isolé, maintenant il va jouer pour Macron au deuxième tour aussi. La gauche se déplacera pas pour voter Macron, une partie de la droite ne votera pas pour lui, et ça peut être beaucoup plus chaud qu'on l'imagine, beaucoup plus chaud qu'on l'imagine.
C'est vrai, qui votera, verra.
Voilà. Covid souris, une étrange défaite, et c'est chez VA Édition. Merci Serge Federbouch. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye pour un sujet différent, mais tout aussi profond. Comment réussir à retenir son éjaculation aussi longtemps qu'on le désire, ou que le désire sa partenaire. Et c'est avec Bruno Martin, psychanalyste, tout de suite.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.